CFM Lacaune, le mag.
Oxygène Intérim vous présente la rubrique emploi et vous souhaite une bonne journée.
On débute ces offres d'emploi par la DMR de Murat-sur-Vèbre qui est toujours à la recherche d'une ou deux aides à domicile à partir du mois de juillet. Homme ou femme, vous travaillerez 70 heures environ par mois. Le permis B est exigé. Il y a un CDI à la clé. Si vous êtes intéressé, contactez Aurélie à murat-sur-vèbre@admrtarn.fr ou alors au 05 63 37 24 97. On continue dans les offres d'emploi, cette fois-ci à la Salvetat-sur-Agout, où on cherche pour l'Ourdounel, l'EHPAD de la Salvetat, un poste d'aide-soignant, homme ou femme, ou d'ASH faisant fonction pour un remplacement saisonnier avec la possibilité de poste fixe par la suite. Si vous êtes intéressé, contactez l'Ourdounel. L'adresse mail, c'est lou.redoundel@orange.fr. À la Cône maintenant, l'imprimerie Perrier recherche un ou deux opérateurs à former par l'imprimerie. Il n'y a pas de formation demandée à la base. On recherche une personne manuelle, motivée et dynamique. C'est un CDD qui peut déboucher sur un CDI. N'hésitez pas à envoyer votre CV ou alors à passer directement à l'imprimerie Perrier à la Cône pour plus de renseignements ou pour postuler. Et puis on va terminer au camping des rives du lac du Laouzas qui est à la recherche d'une personne, homme ou femme, pour un temps partiel pour les mois de juillet et août, 25 heures environ. Cet emploi consiste à faire du ménage et à assurer l'accueil sur 6 jours, samedi inclus. N'hésitez pas à contacter rivedulac.laouzas@wanadoo.fr. Sinon, vous pouvez appeler le 06 303 403 44, 06 303 403 44. D'autres offres sont à découvrir. Vous pouvez par exemple vous rendre à l'espace France Service de Lacaune où il y a des offres d'emploi saisonnières mais aussi des offres d'emploi fixes.
Strange. Kids are going on the ground. Get some heavy rest. Never have to worry about what is worst or what is best. Do it.
CFM Lacaune, Le Mag.
Aujourd'hui sur les ondes de CFM Lacône, nous sommes avec Jean-François Roussel. Bonjour Monsieur Roussel.
Bonjour.
Alors vous êtes bien connu hein, des Lacônais, je le rappelle, ancien chirurgien dentiste sur Lacône, à la retraite depuis 10 ans. Et je vous reçois aujourd'hui, alors pas du tout pour parler de dents, mais pour parler des repas et de tout ce qui se faisait autour de la table dans les mondes de Lacône depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours et les évolutions. Vous ferez une conférence samedi prochain, le 19 juin à 17h. Rendez-vous à la salle Jean-Baptiste Cavaillès. Pour ceux que ça intéresse, c'est à Rue Montagny et on réserve auprès de Rue Montagny. Ça, c'était pour le côté pratique. Merci vraiment d'être là. Et alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. L'idée de la conférence, c'est vraiment d'expliquer les repas et l'évolution de ce qu'on mangeait à table depuis le XVIIe siècle dans les monts de Lacône. Alors, est-ce que déjà on retrouve des traces ou est-ce que c'est difficile?
En fait, le thème développé cette année est Miam.
Miam, avec le conseil départemental.
Avec le conseil départemental. Alors donc, ça couvre un tas de sujets, hein, et je me sentais légitime de parler de cette chose-là, étant donné mon métier, qui était aussi un métier de bouche.
Ah ben, c'est pas faux.
Voilà, bon. Donc pas, ça n'est pas faux.
mais il ne sera pas question de dents ni de papilles.
Absolument pas. Hein, bon. Dedans, on ne parlera pas dedans. Si, de papilles, oui, on en parlera.
Ah, de papilles, oui, bien
on
sûr.
On en parlera des papilles. Hein,
mais alors, dites-moi, de quoi il sera question
Il sera question d'abord d'histoire. Hein, histoire de l'évolution de l'alimentation du 15e, du 16e siècle jusqu'à nos jours. Hein, bon, c'est-à-dire les apports de ces aliments venus de d'outre-mer, hein,
oui.
Voilà. Et ensuite, lors du 19e siècle, avec la modification des transports locaux, c'est-à-dire la construction de routes, de chemins de fer, etc., l'arrivée de ces produits nouveaux chez nous.
D'accord, voilà. Donc ils sont arrivés qu'au 19e siècle, ces produits nouveaux
Du 18e siècle, oui. La pomme de terre est arrivée au 18e siècle.
D'accord.
Alors qu'elle a été importée en Europe au 16e siècle. Elle a été plantée en Italie au 16e siècle. Donc, toutes ces choses-là se sont faites progressivement. Hein. Donc, et jusqu'au 19e siècle, où, de par l'ouverture du canal de Suez, par exemple, hein, la colonisation, parce qu'il faut pas oublier que pendant toute la première période du XXe siècle, la France avait des colonies.
Oui.
Voilà. Et tous ces produits, et un tas de produits sont venus de ces... Et on s'est mis à consommer. Mais il fallait que ces produits puissent arriver chez nous. Alors, grâce à des entrepreneurs comme... un entrepreneur qui se trouvait à Saint-Étienne, qui était Geoffroy Guichard, et à Paris, il y avait un autre entrepreneur, qui ont constitué en France des centres de distribution.
D'accord.
Et ensuite, il y a aussi l'industrialisation qui est arrivée là-dessus, hein, et cette industrialisation a permis l'amener dans notre montagne de nouveaux produits, et puis surtout la création de succursales, en particulier les docks méridionaux, etc. Ça s'est constitué à ce moment-là. Là, j'ai fait une recherche dans les recensements, par exemple, de 1926 et 1936, on se rend compte qu'il y avait des épiceries, en particulier, mais des docks méridionaux dans tous les villages de la région. Il y en avait un à Vianne, un à Murat, un à Lacône, un à Barre, un nage, donc tous les villages avaient leurs docks méridionaux. Il y avait aussi d'autres épiceries.
Qu'est-ce qu'on mangeait au XVIe, XVIIe siècle dans les campagnes, s'il n'y avait pas la patate, la pomme de
voilà.
terre?
Alors, on mangeait des racines, c'est-à-dire du panais, hein,
oui.
Des topinambours. On ne mangeait pas de haricots, hein, ça n'existait pas. Au XVIe siècle, le haricot vient d'Amérique du Sud.
C'est vrai.
Donc, on mangeait des fèves, par contre. On peut considérer que le cassoulet du Moyen-Âge était fait avec des fèves et de la viande...
Et de la viande de cochon.
De cochon, voilà. Hein.
Qu'on avait sous la main.
Qu'on avait sous la main.
C'est pareil, il n'y avait pas de choses très sucrées, parce que le sucre...
Voilà, alors, j'en parle justement. Hein. Le seul édulcorant qu'il y avait, c'était le miel.
Le miel, d'accord.
Il n'y avait que le miel. Ensuite est arrivé le sucre, le sucre de canne, donc, qui a été importé justement, enfin, par des importateurs laconais, émigrés à Bordeaux, hein, c'est-à-dire la famille, les familles Nérac. Donc, ces gens-là sont à Bordeaux. Certains étaient à Bordeaux, d'autres étaient à Cadix en Espagne, à Marseille aussi. Hein, donc, ces gens-là ont importé du sucre en particulier, mais pas que du sucre, du café. Et le sucre se présentait sous forme de blocs parallélépipédiques, roux, bien sûr, denses. Et pour les casser, on avait une pince à sucre. Ça n'a rien à voir avec la pince à sucre qui sert à prendre.
Ça
ressemble à deux couteaux qui venaient couper en quelque sorte des blocs de sucre. Voilà.
On peut dire que l'alimentation dans nos montagnes était très, très basique.
Basique, bien sûr.
Sauf les jours un peu particuliers, les jours de fête.
Voilà, jours
là,
de fête,
par contre, on sortait
Là, on sortait ce qu'on avait de mieux. Hein. Voilà. Je parle aussi de la consommation de vin, par exemple. Oui. C'était traditionnel. Parce que, alors, le vin n'a pas toujours été consommé dans d'autres régions. C'est à partir du 19e siècle, au moment de la construction des grandes voies de chemin de fer, que le Midi, Biterrois, Narbonnais, etc., s'est mis à produire du vin en grande quantité. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que le vin a été consommé dans les cantines scolaires jusqu'en 1956.
D'accord. Donc, bon, voilà. Hein. On le rappelle quand même, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
voilà,
interdit aux
mais...
mineurs. Hein.
Alors, ce vin ne faisait que du 8 ou 9 degrés. Hein.
Oui, c'était, mais bon.
C'est l'époque. On n'en donne plus aux enfants parce qu'on s'est rendu compte des problèmes que ça posait. Mais jusque-là, l'armée fournissait du vin aux militaires, fournissait aussi des cigarettes, hein, parce que de toute façon...
Oui, bien sûr.
Voilà, comment ça se passait. Puis on s'est rendu compte qu'ils ont fait marche arrière, et maintenant...
On n'a plus ça.
Voilà.
Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme peut-être alcool dans la montagne, s'il n'y avait pas trop le vin, parce qu'il n'y avait pas le raisin
Alors, l'alcool...
Est-ce qu'il y en avait ou pas, forcément?
On distillait l'alcool, hein, puisque
d'accord.
Napoléon avait accordé aux grognards donc, le droit de distillation. Hein, ils avaient le droit, par an, d'avoir... Tant de litres d'alcool, voilà.
Like boys, like their girls, like their boys.
CFM Lacaune. Le Mag.
Merci d'être à l'écoute du Mag sur CFM Lacaune. C'est la seconde partie d'un Mag consacré à une conférence qui aura lieu samedi 19 juin à 17h à la salle Jean-Baptiste Cavaillès à Rieux-Montagné. Alors c'est une conférence animée par Jean-François Roussel qui est mon invité aujourd'hui. Je le remercie. Cette conférence va s'articuler sur différents thèmes et d'abord, donc, on en a parlé en première partie d'émission, il sera question de tout ce que l'on retrouve sur la table, les denrées, à quel moment elles sont arrivées, de quoi étaient composés les repas à l'époque. Donc ça, c'est la première partie de l'émission et la première partie de la conférence. Et il y aura aussi une partie de la conférence sur le goût, la gustation, comment se fait le goût et comment on mange finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, monsieur Roussel ?
Cette gustation qui amène à la nostalgie. Hein, parce qu'il faut savoir que le fait de sentir, de goûter, c'est quelque chose qui, chez l'individu, commence très tôt. D'ailleurs, dans la vie intra-utérine de la mère. Hein.
D'accord, dès le ventre.
Dès le ventre, ça commence là. Hein. La preuve, c'est qu'à la naissance, l'enfant, il n'a aucune difficulté à téter sa mère ou un animal quelconque à téter la mère. Hein.
Oui.
Hein, parce qu'il y a cette olfaction et cette gustation.
L'odeur qui l'amène...
Qui l'amène vers... voilà. Donc, c'est quelque chose qui est ancré dans le crâne et il y a aussi dans le cerveau, en quelque sorte, des zones de mémoire. Hein. C'est le cortex qui agrège toutes ces tests de mémoire qu'on a pu... une mémoire qui est une mémoire olfactive, une mémoire visuelle, une mémoire gustative, mais aussi une mémoire auditive. Tout ça fonctionne avec l'aliment, en quelque sorte.
L'aliment et ce qu'on met... Voilà. Il y a la texture aussi, je suppose.
Voilà. Et alors donc, ça rentre... Cette mémoire-là est en place. Et ensuite, lorsque l'on est vis-à-vis d'un aliment quelconque, on peut avoir une idée de cet aliment par rapport en se disant, bah, tiens, ça m'a plu, ça me plaît, parce que j'ai cette notion-là dans la tête. Par contre, la même vision d'une autre personne peut la dégoûter.
Oui. Hein,
et ça entraîne un phénomène quelquefois d'horripilation, alors que celui qui aime ça va avoir un réflexe de salivation.
Hein. Oui.
Tout ça, ce sont des mécanismes cérébraux,
qui sont dans le cerveau,
cérébraux qui se passent. Voilà. Hein. Donc, c'est de ce côté-là que vient la nostalgie, en quelque sorte.
Oui, parce qu'il y a des goûts qu'on n'arrive plus à retrouver. Enfin, on a des madeleines de Proust, ou alors on va retomber dessus un moment et ça va
Alors, c'est tout le problème, j'en parle aussi un peu, c'est tout le problème de l'industrialisation, parce qu'on est obligé de respecter des normes. Et le respect de ces normes dilue en quelque sorte...
Il y a une normalisation, on va dire, des goûts.
Des goûts qui sont parfaitement calibrés et on passe pas à côté. Enfin, alors que je prends l'exemple de la, ben, c'est ce qui se passe à Vianne.
La soupe au fromage.
La
c'est
soupe,
ça
voilà. Hein, ah. Le championnat du monde de la soupe au fromage.
Vous savez que moi, c'est un plat de fête pour
ben
moi.
Oui, ben voilà, ben oui, mais
j'aime ça.
Voilà, voilà. C'est la madeleine de Proust.
C'est ça, tout à fait. Voilà. Et puis pas n'importe laquelle. Voilà.
Voilà, exactement. Hein. Là, parce que. On a cette mémoire en tête. Hein. Mais pour vous, ça se passe comme ça. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ça n'a aucune valeur. Hein.
Bien sûr.
Peut-être même, ils considèrent ça que c'est pas bon. Voilà.
Oui, parce que déjà, le chou, par exemple, c'est un aliment qui peut rebuter certains.
Voilà, donc,
d'autres...
C'est pour ça que l'histoire de la nostalgie est importante dans cette notion-là.
Est-ce qu'il y a aussi des goûts que, ben, du coup, on avait, qu'on n'a plus forcément? Moi, je pense, on en a parlé un petit peu avant l'émission, les saupiquets, les civets qui se font du sang,
voilà,
c'est des choses qu'on ne trouve plus facilement.
Alors,
quoi.
Voilà, c'est ce que je raconte aussi, c'est que, en fait, il y a des recettes que l'on ne peut plus faire. Par exemple, un civet, on ne peut plus faire. Quand on est à la ferme et quand on a des poules ou quand on a des lapins, on peut le faire. Hein. Mais quand on est, on habite en ville, on va dans un supermarché, tout est déjà prédécoupé.
Voilà, il n'y a pas le sang avec.
Il n'y a pas le sang avec. Hein.
C'est ça.
Et le sang, c'est important parce que même, je vois à l'abattoir, c'est un tissu de l'animal, hein, parce que le sang est considéré comme un tissu. C'est le tissu le plus fragile qui est, hein, qui se conserve. Le plus difficilement.
Donc,
il faut le préparer rapidement. Hein. Donc, Ce sont des plats qu'on ne peut plus faire maintenant. Hein. C'est comme le repas des eaux. Ce qu'il y a de curieux, c'est quand j'en parle à des amis, moi je ne le connaissais pas, je ne suis pas de la région. Hein. Fallait que vos parents aient des cochons, tuent le cochon, etc. Voilà, c'est lié au mazel. Hein. Si on n'a pas fait de mazel, on ne peut pas le connaître. Bon, voilà. Je vous invite l'année prochaine, parce que cette année, malheureusement, à cause du Covid, ça a été... Mais je vous invite un jour à venir à Nage, participer au repas des eaux.
Oui.
Et vous verrez, c'est très folklorique.
On testera.
Voilà.
Non, mais c'est ça, c'est aussi toutes ces madeleines, c'est ce dont il va être question à cette conférence.
Tout à fait. Hein.
Parce que...
ça n'a rien à voir avec les dents.
Non, c'est vraiment l'histoire et ces repas de fête aussi, qui étaient des repas souvent gargantuesques.
Tout à fait.
Ce qui est aussi en train un petit peu de disparaître. On va vers des cuisines un peu plus légères maintenant, alors qu'avant, il y avait vraiment cette tradition de faire des gros repas. Et puis ces goûts qu'on oublie, qui disparaissent. On a aussi tout ce qui est acide un petit peu qui a disparu de notre alimentation.
Voilà, tout à fait, oui.
Je pense notamment aux plantes sauvages qui sont souvent avec une certaine acidité et qu'on ne connaît plus dans l'alimentation normalisée.
Absolument, tout à fait. La quête des plantes sauvages pour l'alimentation, il y a quelques personnes qui s'en occupent, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Mais c'est, par exemple, moi personnellement, chaque année, je vais ramasser les orties et je fais une soupe d'orties. Je me régale.
Oui, à ce qui paraît, c'est très très bon.
Voilà.
On pense aux rispuntsus.
Ou les rispuntsus. Je préfère l'asperge sauvage. Parce que
le houblon, c'est ça?
Le
Alors, c'est peut-être pas pareil. Attention.
C'est tout à fait différent.
Alors, l'asperge sauvage, c'est plus doux.
C'est l'herbe de la femme sauvage, la femme battue plutôt. Le rispuntsus, c'est ça, hein, je crois.
Alors, il y en a un qui est acide et l'autre qui est moins acide. Il y a le houblon et le rispuntsus, je crois. Bon, je ne suis pas une experte.
Non, mais il y a le rispuntsus, le houblon et l'asperge sauvage.
Ah, alors bon.
Troisième, l'asperge sauvage se ramasse surtout dans le midi méditerranéen. Hein.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc voilà, ça sera tout ça qui sera à découvrir. Bon, ben déjà, le temps est déjà passé, ça passe très très vite. Moi, je suis sûre que vous allez passer un agréable moment si vous vous rendez samedi 19 juin à 17h à la salle Jean-Baptiste Cavaillès. Vous retrouverez Jean-François Roussel pour parler de l'évolution de ces repas dans les mondes de la Cône du 16e siècle au 20e siècle. Et ses goûts, ça sera l'occasion de parler de vos petites madeleines de Proust. C'est vrai que moi, avec Jean-François Roussel, il m'a refait penser au saupiqué. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un saupiqué. Je lance un appel. Si vous faites un saupiqué chez vous, ben appelez-moi. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Roussel, d'avoir été avec nous. Merci.
Ben merci à vous.